C'est parti pour une nouvelle émission de ce podcast proposé par DUEC, l'association Devenir un en Christ. Ici, on parle et on entend la vie d'hommes et de femmes qui font tenir ensemble dans leur vie leur foi chrétienne et leur homosexualité. C'est ce trait d'union qui nous intéresse. Et pour en parler aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Véronique. Véronique, bonjour.
Bonjour.
Alors, je te présente rapidement. Tu es une toute jeune retraitée qui habite Paris. Et tu as rejoint DUEC, je crois, l'année dernière.
C'est ça, en 2024.
Voilà, avec une anecdote amusante, c'est que tu as pris ta cotisation avant même de rencontrer une personne ou un visage de DUEC.
Mais oui, absolument. J'avais vu complètement par hasard la vidéo de Timothée qui était passée au jour du Seigneur. C'était une révélation, cette vidéo. Et du coup, je me suis précipitée sur mon ordinateur pour regarder qu'est-ce que c'était que devenir un en Christ. J'ai regardé le site et très rapidement après, je me suis dit que très bien, j'allais adhérer et puis on verrait ensuite. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai adhéré, puis ensuite, j'ai pas pu participer aux premières activités pour des raisons d'emploi du temps. Puis finalement, je suis venue au week-end de rentrée.
Ouais.
Et donc, j'ai adhéré une deuxième fois.
Bon, voilà, un bel exemple à suivre là, pour ceux qui nous écoutent. Prenez votre cotisation avant de rejoindre l'asso. Et je trouve intéressant de demander si c'est... Quand tu le fais, c'est parce que tu as un désir de mieux articuler ta vie affective et ta foi chrétienne à ce moment-là de ta vie, ou parce que tu es déjà arrivé à... Finalement, tu étais déjà très en paix là-dessus, et donc l'association te rejoignait dans un combat ou un état que tu avais déjà bien trouvé.
En fait, j'étais en paix avec ma foi et la façon dont je la vivais, et puis le fait... d'être homosexuel, enfin, ça ne m'occupe pas toute la journée d'y penser. Mais ce que j'ai trouvé intéressant tout de suite, c'est de me dire qu'il y avait un lieu où je pouvais rencontrer d'autres chrétiens et d'autres chrétiens qui partageaient la même réalité que moi et qu'on n'avait plus besoin d'en parler pour être ensemble et qu'on n'avait plus besoin de la cacher non plus. Et ça m'a paru évidemment très intéressant. Et puis j'avais envie éventuellement de m'investir, de voir si je pouvais éventuellement aider. Donc j'ai commencé par une petite contribution financière. Mais c'était un peu l'idée, ces deux idées-là.
Pour essayer de suivre un peu une trame chronologique ou pour te connaître un peu à travers un récit, est-ce qu'on pourrait commencer par l'enfance ou en tout cas le moment où tu réalises qu'il y a chez toi quelque chose d'un peu différent? Et je crois que tu m'avais dit que pour toi, ce n'était pas l'homosexualité qui était venue en tant que telle, mais la découverte de l'amour. Donc à quel moment de ta vie ça se passe?
J'ai 13 ans quand je tombe pour la première fois amoureuse. Et c'est un sentiment très bizarre hein, qui m'envahit. Enfin, dans mon enfance, je n'ai jamais ressenti de choses comme ça. Donc je mets un petit peu du temps à comprendre toutes les émotions qui me traversent. Et effectivement, je suis amoureuse de quelqu'un de mon âge, d'une jeune femme de mon âge. Et je le comprends. Enfin, une fois que je l'ai compris, que c'était ça, ce qui m'est apparu évidemment en premier, c'était que c'était de l'amour. Je voyais pas, j'ai pas vu autre chose parce que évidemment, il ne se passait rien. Mais j'ai vu tout de suite à quel point ça pouvait transporter. Et ça pouvait émouvoir. Rapidement, j'ai aussi vite compris que ça portait un nom et que cette réalité de l'homosexualité n'était pas acceptée du tout. D'ailleurs, on n'en parlait pas, c'était un tabou. Elle n'était pas du tout acceptée dans les années où moi j'étais adolescente, c'est-à-dire la fin des années 70. Donc c'était pas accepté dans la famille, c'était pas accepté dans la société, encore une fois on en parlait très très peu, et c'était pas accepté évidemment vis-à-vis de l'Église. Et c'est une époque où moi je suis assez active, je suis à l'aumônerie de mon lycée, enfin j'ai fait toutes les années de lycée, j'ai été à l'aumônerie, aux différentes aumôneries. Et ensuite, je suis aussi assez rapidement cheftaine de louveteau. Je suis chez les scouts. Donc, je suis un petit peu active dans ce genre de choses. Mais j'ai bien compris qu'il fallait pas, voilà, qu'il fallait pas le. Enfin, pour moi, en tout cas, ma lecture à moi, ça a été de dire, je le garde pour moi et je ne dis rien. Ce qui en fait était très difficile. Hein. C'était difficile à porter tout seul, hein, vraiment. Et je suis contente pour les générations d'aujourd'hui, parce que au moins les générations d'aujourd'hui, elles peuvent s'en ouvrir, à, s'ouvrir de ce qu'elles ressentent à plein de gens, notamment à des psychologues. Mais à l'époque, on n'en parlait même pas, il n'y en avait pas des psychologues.
Ouais. Il y a quand même, tu m'as parlé d'une personne qui va, je vois la seule, qui va savoir à qui tu vas t'ouvrir. Enfin, est-ce que tu pourrais nous parler de cette personne et pourquoi t'ouvrir à elle en particulier ?
Alors, je pense que tu fais référence à mon à l'aumônier.
Oui, voilà, tu m'as parlé de ton aumônier de lycée.
Alors, c'est vrai que quand j'étais au lycée, entre la seconde et la terminale, j'ai eu un aumônier extraordinaire qui s'appelle Stan Rougier, qui est, je crois, toujours en vie, qui a été un prêtre fabuleux pour les jeunes. Et d'ailleurs, il a beaucoup, beaucoup travaillé avec les jeunes. Donc, Stanislas Rougier. Et c'est, alors je lui dois quelque chose d'extraordinaire, c'est lui qui a ancré ma foi. Mmh. C'est vraiment lui qui a fait que j'ai découvert un Dieu amour, un Dieu de tendresse, et que je n'ai jamais vu Dieu comme un Dieu méchant ou un Dieu vengeur. Je l'ai toujours vu comme quelqu'un qui nous, enfin, un Dieu qui nous ouvrait les bras et nous accueillait comme on était.
Ouais. Et ça, c'est fort en t'entendant là. La conviction que tu as déjà toute petite, je ne sais pas comment tu l'as formulée la dernière fois qu'on s'est vu, mais comme si c'était une préscience ou que c'est quelque chose qui t'est tombé dessus, mais tu t'as compris que, un, ce n'était pas ta faute et que Dieu t'aimait de toute façon inconditionnellement, il n'y avait aucun doute là-dessus.
Voilà. Alors oui, c'est vrai que je me suis très rapidement dit, quand j'avais 14-15 ans, que finalement, j'avais rien fait de mal, et puis d'ailleurs, j'avais rien fait du tout. Mmh. Donc, j'avais juste des sentiments et j'éprouvais des émotions. Mais j'avais rien fait pour en arriver là, et que donc c'était tout à fait involontaire de ma part si j'avais des sentiments pour une camarade ou des camarades. Et je me suis dit que, puisque je n'avais rien fait, je ne devrais pas culpabiliser. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué que ça. On culpabilise quand même parce qu'on le cache à tout son entourage et qu'on sent quand même que c'est très mal accepté. Donc forcément, on nous renvoie une image, même à cette époque, on nous renvoyait une image qui était quand même assez dégradante.
Ouais.
Alors, j'étais pas complètement en paix du tout. Hein. Mais en tout cas, vis-à-vis de Dieu, je n'ai jamais pensé que c'était... qu'il ne m'aimait pas tel que j'étais ou que c'était une, comment dirais-je, une punition de sa part. J'ai pas pensé non plus que c'était un cadeau, hein, j'ai pas pensé que c'était une punition. Enfin, j'ai pas pensé que c'était un cadeau. Enfin, j'ai vu Dieu comme un moyen de me donner, enfin un moyen, un, la seule personne vers qui, la seule, pardon, je sais pas comment on dit personne, vers qui me tourner pour lui demander de la force pour traverser les années qui allaient venir, parce que très rapidement, quand on est jeune, enfin, je me suis rendu compte que ça allait mettre fin à tous mes rêves classiques de jeune fille, à savoir
tu voulais être
des enfants. Bah, je voulais quatre enfants et un mari, mais j'ai vite compris que ça allait être pas possible. Malgré le fait que je côtoyais plein de garçons et plein de filles, enfin voilà, dans mon entourage, mais je me suis rapidement dit que ça allait pas, que ça ne fonctionnerait jamais, et qu'il fallait donc faire le deuil de tous ces rêves qui sont des rêves, j'allais dire classiques de jeune fille.
Il faut dire à côté que tu fais des très bonnes études aussi, enfin, t'es à Sciences Po Paris. Est-ce qu'il n'y a pas je ne sais pas si c'est une expression que tu utiliserais, mais un mécanisme de défense de ta façon d'investir après même ta vie professionnelle ou le travail, ou non, c'était quelque chose d'à côté ?
Non, ce n'était pas du tout un mécanisme de défense. Ouais. Là où j'étais et là où je grandissais, on faisait tous, enfin tous mes amis faisaient des études, on faisait tous des études.
Ouais.
Ça, c'est la chance. C'est la chance que j'ai eue de grandir dans un environnement comme ça.
Oui.
Je ne l'ai pas choisi, mais c'est vrai que c'est une chance. Et du coup, donc voilà, j'avais à gérer en moi-même une réalité qui n'était pas facile. Mais à côté de ça, j'avais une vie à faire. Et de toute façon, j'allais faire des études. Et puis après, les choses se sont enchaînées. Alors c'est sûr que j'ai eu pas mal de temps pour m'investir dans ma vie professionnelle, puisque je n'avais pas de mari, pas d'enfant. Mais ça, c'est vrai, mais ce n'était pas un dérivatif du tout. Alors, en fait, pour revenir à Stan, quand même...
Le père Stan Rouget. Il est encore vivant, d'ailleurs, non ?
Je crois qu'il est encore vivant. Ouais. J'essaye depuis plusieurs mois de le retrouver. Et donc, pour revenir à Stan, quand j'avais une vingtaine d'années, il faisait des retraites très souvent à La Flatière, près de Chamonix. Oui. Et à l'époque, et je me souviens, je suis allée à 2 ou 3 retraites où Stan prêchait. Parce que quand on écoutait Stan, on ressortait avec le sourire aux lèvres et on était tout rempli d'amour et de l'amour de Dieu. Et donc, je suis allée écouter Stan et puis au cours d'une de ses retraites, je me suis confessée avec lui. Et c'est vraiment à lui que je l'ai dit. Et il a eu cette phrase, c'est la seule chose dont je me souviens, parce que c'était il y a longtemps. Il a eu cette phrase super, « Ne te sens pas coupable ». Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il m'a dit, tout ce dont je me souviens. Mais ça m'a aidée ensuite vraiment à essayer de me défaire de cette culpabilité que je pouvais ressentir, mais encore une fois qui était sociale et familiale plus que en rapport avec la foi.
Et pourtant, quand même, est-ce que c'est aussi à ce moment-là dans ta vie où finalement tu prends un peu de distance quand même avec l'Église et dans le reste de ta carrière après ?
Oui, alors effectivement, dans les années qui ont suivi, une fois que j'ai commencé à travailler, d'abord je n'avais pas un temps infini. Et puis ensuite, c'est vrai que les positions de l'Église, et je me sentais vraiment un peu en butte, en fait. Je me sentais un peu en butte avec l'Église. Alors, j'étais célibataire. Alors, je ne pouvais pas raconter grand-chose. Et puis, donc, je n'étais pas mariée. Je n'avais pas d'enfant. Donc, pour faire partie de groupe de partage, j'étais toujours un peu à côté de la plaque. Mmh. Et puis, je me voyais pas cacher des choses dans l'Église. Donc, je préférais carrément ne pas y être.
Ouais.
C'est plus simple. Plutôt que de mener... plutôt que d'essayer de m'investir dans des choses, mais sans dire la vérité. Et j'avais pas envie de dire les choses, encore une fois. Donc, je me suis tenue un petit peu éloignée. Il faut dire que les positions de l'Église, elles étaient quand même assez sévères. Ce qui est toujours aujourd'hui un peu incompréhensible, hein, parce que dans la mesure où on n'a pas choisi son orientation sexuelle, on a du mal à comprendre un petit peu la sévérité de l'Église vis-à-vis de quelque chose que nous ne maîtrisons pas, en fait. Hein, et qui ne fait pas de nous de mauvais humains pour autant.
Surtout que finalement, ce que j'entends chez toi et que je trouve assez fou, c'est que tu es extrêmement tournée vers la vie, très confiante, parce qu'il y a ces bons principes de départ que tu as bien reçus, et tu le dis, tu as eu de la chance. Mais c'est terrible, là, en t'entendant, de se dire que finalement, parce que tu es tournée vers la vie et que tu as envie d'être en paix avec toi-même, la meilleure solution, c'était de s'écarter un peu de l'Église parce qu'elle ne t'aidait pas à ça, quoi.
Oui, c'est ça. Ouais. Et en même temps, c'est vrai que j'ai toujours été plus ou moins à l'Église, en tout cas à la messe. Je me voyais pas très bien m'investir avec, notamment, et travailler, entre guillemets, avec des prêtres sans être capable d'être un peu plus transparente. Je cachais déjà beaucoup de choses à ma famille et à mes amis, en fait, hein. Je disais pas grand chose, donc je me voyais pas faire ça en plus dans le milieu de l'Église.
Il y a une anecdote que tu m'as racontée la dernière fois où je crois que c'est aux États-Unis, c'est un moment où tu vis là-bas, où tu es au travail, pour raconter un peu comment t'as ce regard un peu à côté ou d'observatrice où tu regardes tous tes collègues et tu te demandes qui est gay, qui n'est pas gay. Et cette anecdote m'a marqué parce que je sens qu'à ce moment-là, t'es un moment où t'es dans un regard en retrait. Et finalement, tu t'amuses de voir le monde et de voir en fait tout ce qui se cache aussi parfois dans tes collègues et tout ça.
J'ai finalement fini par accepter cette composante de moi-même, de l'homosexualité. J'avais pas loin de 35 ans. C'était d'ailleurs quand j'étais aux États-Unis. Mais d'une part, c'est vrai que j'avais mis derrière moi tous mes rêves de mariage et d'enfant. De toute façon, maintenant, ils étaient derrière à cause de l'âge que j'avais et j'avançais en âge. Et deuxièmement, j'avais eu la chance à la fois d'aimer, d'être aimée, de grandir et de vivre. Et donc, j'avais fini par apprivoiser un peu tout ça. Mais ça met du temps, hein. Entre 13 et 35 ans, ça met du temps. Et puis, aux États-Unis, c'est par des discussions et c'est par des lectures, d'ailleurs, diverses et variées dans des journaux, avec une ouverture et une façon de regarder les choses très différentes, parce que c'était chez les Américains et non plus en France. Et puis, ils ne sont pas catholiques, hein, donc ça aide aussi un petit peu à certains égards, que j'ai fini par prendre à regarder un peu l'homosexualité avec beaucoup plus de distance, en me disant, mais enfin, finalement, on est tous pareils, et puis la seule chose qui différencie, c'est ce qui se passe le soir dans notre chambre. Mais le reste, on est tous des humains avec les mêmes aspirations, les mêmes rêves, les mêmes envies, quels qu'ils soient. Mais on est tous identiques, en fait. Finalement, c'est une composante qui est petite dans notre vie de tous les jours, qui n'est pas là tous les jours. Et ça m'a vraiment aidée. Et puis, effectivement, il y a eu cette réunion de cadres, une fois. Grande réunion de cadres. On était, je ne sais pas, 300, 400. Je ne sais pas pourquoi, je n'étais pas très concentrée sur les chiffres présentés par la direction financière, mais j'étais plutôt concentrée sur l'assistance. Et je me suis dit, et il y avait vraiment une majorité d'hommes, on était peut-être une dizaine de femmes ou une quinzaine de femmes, mais il y avait une majorité d'hommes. Et je me suis dit, mais enfin, on est 300 ou 400. Parmi 300, 400, on a 10% de gays. Mais alors, qui est gay dans cette assemblée? Et je me suis amusée à les regarder tous les uns après les autres. Il y en a que je connaissais, il y en a que je ne connaissais pas, bien sûr, les différentes unités de production. Mais je les ai regardés et ça m'a beaucoup amusée pendant cette réunion d'essayer de deviner qui pouvait l'être, qui ne pouvait pas l'être. En même temps, c'était un amusement, c'est par jeu que...
C'est le fait de réaliser qu'en fait, toi tu es là au milieu d'eux et en fait beaucoup d'autres vivent sans doute la même réalité au travail comme toi.
Exactement. Ouais. Et moi, toute ma vie professionnelle, je n'en ai jamais parlé.
Et est-ce que c'est quelque chose qui, tu penses, aurait changé tes relations avec tes collègues, de le dire, ou est-ce que c'est finalement, il n'y a aucun regret là-dessus, tu te dis, c'est très bien que j'en ai pas parlé, c'était absolument pas nécessaire, quoi.
Alors, c'était pas nécessaire, parce que je pense que ça changeait rien aux compétences techniques et psychologiques qu'on peut avoir dans n'importe quel travail, mais deux, je pense que ça aurait nuit à ma carrière de le dire. D'abord, j'ai toujours eu des patrons hommes, toujours. Donc un peu plutôt ce qu'on dit aujourd'hui, hein, des mâles alpha, comme on le dit aujourd'hui. Oui, oui. Et je pense qu'il valait mieux jouer sur un peu de féminité de ma part que d'essayer de jouer dans la même cour que. Je crois qu'il valait mieux jouer la complémentarité des psychologies et des sexes que de jouer une neutralité bizarre ou autre. Et moi, je pense qu'il ne fallait pas en parler. Et je pense que j'ai bien fait parce que j'ai entendu parfois quelques réflexions de la part de mes boss qui montraient qu'ils regardaient les homosexuels avec un certain mépris.
Oui, il y avait un peu d'homophobie quoi, dans ce milieu-là. Quoi. Et ça, c'est pour le travail, mais dans tes relations avec ta famille, tes parents, tes amis. Est-ce que du coup, à ce moment-là de ta vie, donc au bout de déjà, on est à peu près quoi, autour de la quarantaine, où tu en parles, tu as en plus une vie amoureuse aussi pendant ces années.
Oui, alors finalement, mon coming out familial, il s'est fait, j'avais 50 ans. Donc, j'avais 50 ans. Ça a été un très mauvais moment, voilà. Mais ça a été aussi un moment où je l'ai fait aussi avec la plupart de mes amis que je connais. Moi, j'ai des amis que je connais depuis le lycée, donc ça fait beaucoup, beaucoup d'années. Depuis la fac, donc ça fait beaucoup d'années. Donc là aussi, je l'ai fait. J'ai perdu aucun ami. Enfin, vraiment, d'amis qui étaient des amis de longue date. Mmh. Je n'en ai perdu aucun. Aucune, je devrais dire.
Et ça a changé ta relation avec eux?
Non, ça n'a pas changé finalement. Du tout ma relation avec eux, ce qui est très bien, d'ailleurs, parce que ça m'aurait bien embêté que ça change ma relation avec eux. On a toujours la même relation, qui est plutôt sympa et où on s'amuse beaucoup. Mmh. Et c'est tous... Mais voilà, ça fait... Moi, mes amis, c'est tous des cathos convaincus. Donc, je suis pas sûre qu'ils acceptent cette composante de moi-même de toute façon dans leur fort intérieur. Mais on se connaît depuis tellement longtemps que, en fait, c'est difficile d'arrêter d'aimer quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps alors qu'on a passé des super moments ensemble et que finalement, quand on ne le savait pas, bah finalement, voilà, tout allait bien. Et donc, pourquoi ça devrait changer maintenant, quoi ?
Je me dis que là, on peut peut-être marquer une petite pause. Je crois qu'il y a un texte que tu peux nous lire. En plus, ça fait longtemps qu'il t'accompagne. Je ne sais pas depuis... Tu l'as trouvé à quelle époque, tu t'en rappelles ?
Oh, je devais avoir 15-16 ans.
Ah oui, donc il t'a accompagné toute ta vie, quasiment.
Oui, c'est un texte... je lisais beaucoup. Hein. J'étais une grande lectrice quand j'étais jeune. Je le suis un peu moins maintenant, mais j'étais une grande lectrice. Et je me souviens d'avoir lu « Les nourritures terrestres » d'André Gide.
Ok.
Très beau livre. Et j'avais noté dans un cahier, je notais les passages des livres que j'aimais beaucoup ou des citations. Et j'avais pris ce texte que j'avais recopié tellement il a été fondateur pour moi pour la suite de mon existence. J'admirais, je n'ai pas fini d'admirer dans l'Évangile un effort surhumain vers la joie. Il m'a paru depuis longtemps que la joie était plus rare, plus difficile et plus belle que la tristesse. Et quand j'eus fait cette découverte, la plus importante sans doute qui se puisse faire durant cette vie, la joie devint pour moi non seulement un besoin naturel, mais bien encore une obligation morale. Il me parut que le meilleur et le plus sûr moyen de répandre autour de soi le bonheur était d'en donner soi-même l'image, et je résolus d'être heureux.
Ça se décide. Finalement, c'est ça que nous dit André Gide, là.
Voilà, ce que dit André Gide, mais c'est aussi ce que dit le philosophe Alain, qui a aussi des textes sur la joie qui m'ont beaucoup, beaucoup plu et que j'ai lu, relu et re-relu. C'est qu'effectivement, être joyeux, d'abord, c'est une obligation de chrétien. Franchement, c'est une obligation pour un chrétien parce que y a cette dimension dans l'Évangile qui est très forte. Et puis, c'est quelque chose qu'on peut choisir.
Ouais.
C'est une habitude qu'on peut prendre. Voilà, d'être heureux, d'être joyeux, ça se décide, en fait, c'est dans la tête. Et quelles que soient quelles que soient toutes les circonstances, évidemment pas toutes les circonstances, on peut porter en soi de la joie.
Bah, merci pour ce partage. Je te propose pour continuer de faire une petite série d'affirmations. Et l'idée, c'est que tu puisses répondre rapidement oui, non. Bon, ça peut être développé un peu si jamais tu le veux. Ou te dire que bon, t'as pas d'idée. Et voilà, j'en fais une petite série comme ça. Croire en Dieu, c'est essentiellement une question d'amour.
Oui.
Si on est homo, il est important de ne pas se victimiser.
Ah oui, alors ça c'est très important parce que on est toujours... c'est pas parce qu'on est homo qu'on n'est plus rien, on est acteur de sa vie.
Ouais.
Et encore une fois, ça peut être qu'une petite partie de sa vie, c'est-à-dire qu'on peut accomplir énormément de choses.
Bon, je pose cette question exprès parce que tu avais beaucoup insisté là-dessus. C'est facile de choisir la vie.
Alors non, c'est pas facile de choisir la vie parce qu'on a tous des tempéraments différents, des personnalités différentes. Mais on peut en tout cas travailler à choisir la vie, oui.
Ok. L'homosexualité, c'est une grâce tombée du ciel.
Non, c'est quand même pas une grâce tombée du ciel. C'est pas un cadeau. Mais on peut faire de très belles choses, cependant, et notamment de sa vie et pour les autres.
Ouais. L'amour, c'est pas compliqué.
Alors, l'amour... L'amour, de manière générale, c'est pas compliqué. L'amour de tous les jours avec... une conjointe ou un conjoint, oui, c'est un petit peu plus difficile, mais
Oui, tu es nuancé là-dessus. Et puis une petite dernière qui est aussi un peu un piège, donc c'est une citation. « Tout l'art de l'existence est de transformer nos fêlures en chance. »
Ah, ça, c'est magnifique.
Ouais. Est-ce que tu sais qui l'a écrite, cette citation ?
Non.
Mais en fait, je l'ai trouvée, c'est de Stan Rougier, dans un de ses livres. dans quel livre c'était ? Accroche ta vie à une étoile. Je ne sais pas si tu l'as lu.
Ah non, celui-là, je ne l'ai pas lu. Moi, j'en ai plusieurs, mais pas celui-là.
Tout l'art de l'existence, c'est de transformer nos fêlures en chance. Et tu le reconnais tout de suite,
ah,
finalement,
bah oui.
Parce que c'est magnifique.
C'est magnifique.
Tu te retrouves dans cette phrase ?
Ah bah complètement. Complètement. Et puis, tous les gens qui sont... Enfin, oui, absolument. On a cette composante qui est difficile de toute façon à accepter. On ne peut pas la maîtriser déjà, donc elle est difficile à accepter. Mais une fois qu'on peut regarder la vie et on se dire qu'on peut, alors en chance, on peut en tout cas en faire quelque chose pour que nous soyons des meilleurs, peut-être simplement des meilleurs chrétiens ou de meilleurs êtres humains.
C'est comme une opportunité en fait, ou une occasion de...
Et en plus, je pense que quand on a soi-même souffert, on comprend mieux la souffrance des autres. Et donc, c'est aussi une chance dans ce sens-là.
Ouais. Tu sens que toi, à des moments dans ta vie, ça a été utile de ce point de vue-là ?
Ben, j'ai eu des moments difficiles. Et je suis persuadée que quand on a traversé ces moments-là, quand quelqu'un d'autre vient avec n'importe quelle souffrance, on est plus à même... je pense d'avoir de l'empathie, de l'écouter, de le comprendre.
Il y a un moment où tu retournes en France, c'est ça ? Là, tu nous as parlé d'une période où tu étais aux États-Unis. Tu avais quel âge à ce moment-là ?
J'avais 35 ans, 35-40 ans.
Ah oui, d'accord.
Donc entre 35 et 40
ans. C'était un peu début de carrière, en fait.
Ouais. Non, ça fait déjà 10 ans que je travaillais.
10 ans, oui, bon, on va dire premier tiers, voilà. Ouais. Mais ok, et après tu reviens, tu vis en France ?
Oui, je reviens en France et j'habite... J'habite à Lyon, d'abord, et ensuite je reviens à Paris.
Ok.
Et est-ce que... C'est toujours ma carrière professionnelle qui a bougé. Hein.
Ouais, c'était les opportunités. Il y avait une phrase aussi qui m'avait marqué. Mais tu m'as dit, parfois, tu laisses la vie choisir pour toi.
Ah oui, alors voilà. J'ai beaucoup fait ça je dois reconnaître, dans ma carrière. C'est vrai que c'est un petit peu... En tout cas, mon début de carrière, après j'ai choisi, mais... Dans mon début de carrière, c'est vrai que j'ai un peu laissé un peu les opportunités décider où est-ce que j'allais en termes de job.
Ouais, parce que tu avais confiance. Il y a une confiance en toi.
En tout cas, j'avais pas. En tout cas, j'avais une confiance naturelle dans les choses et notamment. C'est une chance, hein, c'est vraiment une chance et ça vient d'une psychologie familiale. J'étais pas. Inquiète sur mes capacités à faire des choses, voilà. Et de manière générale, quand j'ai vraiment voulu quelque chose d'un point de vue du travail, hein, je l'ai obtenu. Ouais. J'y ai mis toute mon énergie et je l'ai obtenu.
Bah, ça rejoint un autre passage là, de Stan Rougier que j'ai trouvé où il parle de la prière dans un de ses livres, où il dit que la prière n'est pas là pour exercer une influence sur le cœur de Dieu. Dieu n'a pas pour mission de nous exaucer. Je trouve ça fou de lire ça.
C'est vrai.
Il nous priverait alors de nos responsabilités, de nos tâches, des missions qu'il nous a confiées. Par la prière, nous pouvons être exaucés. Alors, il écrit exaucé autrement. Il écrit exaucé, ex-aucé, comme aucé vers Dieu, quoi. Donc, c'est-à-dire soulever au-dessus de nous-mêmes pour aller vers Dieu. Nous voyons de plus haut, nous pouvons trouver le sens de ce qui nous arrive. Et moi, je trouve étonnant c'est exactement ton attitude, c'est-à-dire que tu n'as pas attendu de Dieu qui prenne en main les choses à ta place.
Alors, j'ai fait des erreurs, hein, c'est ce qui arrive toujours quand on essaye quelque chose. Ouais. Parfois, on se trompe. Mais en même temps, oui, non, j'ai toujours été acteur quelque part. Alors, parfois, j'étais acteur en choisissant. Donc vraiment, en allant vers une direction parce que je sentais que c'était la bonne. Et parfois, j'étais acteur, mais en me laissant guider par une opportunité ou une autre. C'est ce que j'ai fait souvent dans ma début de carrière. Et après, je me suis mis effectivement à choisir une fois que j'ai eu un certain nombre de compétences établies et que j'étais à peu près confiante dans mon savoir. En fait, très honnêtement, moi, la seule chose que j'ai toujours demandé à Dieu, c'était de me rendre forte par rapport aux épreuves que je pouvais recevoir, à la fois sur le plan personnel ou sur le plan professionnel, enfin tout ce qui était les tâches de la vie, et de me rendre forte, mais je ne vais pas demander d'effacer... peut-être quand j'étais très jeune, je vais peut-être demander de me guérir de l'homosexualité, mais bon, j'ai vite compris que ça n'allait pas marcher comme ça. Mais je ne lui demandais pas de... Je lui demandais de m'aider à traverser des choses difficiles, à me donner du courage et de la force. Mais je n'attendais pas de lui que tout se passe.
Tu priais beaucoup dans ta vie, enfin, ou tu pries beaucoup actuellement ?
Alors, je prie plus maintenant que je ne priais avant, pour être honnête. D'abord parce que j'ai plus de temps et je peux plus organiser ma journée avec des moments éventuellement un moment de prière. Alors, c'est pas énorme, hein, mais ça peut être de lire l'évangile, ça peut être une petite méditation, ça peut être voilà, ces choses-là dans une journée, le matin de préférence. Hein. J'aime bien lire les textes de la messe du jour.
Ouais.
Parfois ça me parle, parfois ça me parle pas. Mais ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est mon moment de... C'est mon moment pour dire juste, voilà, je suis là, je t'écoute, Seigneur. Mais ça peut être bref, hein. Mais c'est vrai qu'avant, déjà aller à la messe, c'était déjà pas mal.
Oui, t'as eu une période, on a bien compris. Peut-être, moi, j'aime bien terminer nos échanges toujours un peu par la même question. C'est te demander ce que tu aimerais dire à la petite fille que tu as été ou à une jeune femme, un jeune homme aujourd'hui qui est concerné par l'homosexualité pour qu'il avance confiant dans la vie, quelque chose que tu as mûri en fait au fil de ta vie.
Oui, j'ai beaucoup pensé à cette question et c'est amusant que tu me poses la question parce que moi j'ai des neveux et des nièces qui sont justement à un âge charnière, ils ne sont pas homo, mais ils ont un âge charnière où après le lycée ils sont en train de démarrer leurs études et eux aussi ils cherchent une voie, quelque chose, où aller, quoi faire, enfin... Et en fait, c'est des choses que je leur dis déjà et qui sont valables, enfin, je crois, pour pas mal de jeunes. C'est la première chose que je dirais, c'est un jeune concerné par l'homosexualité, c'est lui dire il faut apprendre à vivre avec un problème. Ça prend du temps, mais il faut apprendre à vivre avec un problème.
Et problème, au quel sens? C'est-à-dire une donnée en plus que les autres, quoi.
Quelque chose qui n'est pas forcément agréable, donc c'est un problème. Donc l'homosexualité,
au début, ça se pose comme ça.
Entre guillemets, l'homosexualité est un problème, donc il faut apprendre à vivre avec. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose que je dirais toujours, c'est mets ton énergie à faire deux choses. La première, c'est construire ta personnalité. Mmh. Quelle personne veux-tu être? Quel chrétien veux-tu être? Comment tu te vois? Quels sont tes modèles? À qui veux-tu ressembler? Construis ta personnalité avec tes idées et ton caractère. Ça, c'est important de penser sa personnalité. Pas de subir son tempérament, mais de le penser et d'aller vers la personne qu'on voudrait être. Mmh. Et la deuxième chose, c'est aussi mets toute ton énergie à construire ton avenir. Parce que moi, je trouve que la décennie entre 20 et 30 ans, c'est une décennie capitale. Parce que tout ce qu'on va faire entre 20 et 30 ans va ensuite déterminer souvent le chemin qu'on a entre 30 et 60. Et donc, tout ce qu'on construit pendant entre 20 et 30 ans, ça peut être en n'importe quelle activité, ouais. N'importe quel parcours professionnel, n'importe quel parcours d'études. Évidemment, il n'y a pas de règles, mais ouais. C'est vraiment de mettre son énergie à penser son avenir dans ce sens-là.
Ouais. Forme-toi, construis-toi, développe-toi, c'est tout ça. Quoi.
Apprends à te connaître, surtout déjà, hein, pour te construire toi-même, apprends à te connaître. Donc ça, c'est la partie personnalité. Et puis la partie études, boulot, enfin, voilà, c'est pose les bases de ce que tu vas faire ensuite pendant probablement 30 ans.
Bon, bah, c'est ce qu'on souhaite à tous ceux qui nous écoutent, de prendre de bonnes directions. Ben merci Véronique, on va s'arrêter
merci.
Là.
Merci Jeff, avec plaisir.
Et puis à bientôt.
À bientôt.
Voilà, l'interview de Véronique s'arrête là, mais si vous voulez en écouter d'autres, rendez-vous sur le site de Duhec. À bientôt.